Allô, ma chérie ? Vous vous apprêtez à découvrir un podcast Le son du désir. Celle du bureau. À une certaine époque de ma vie, j'ai été employé dans une agence d'attaché de presse. Celle-ci était spécialisée dans le monde de la culture. Mes seules motivations pour y travailler tenaient en trois points. Premièrement, il faut bien gagner de quoi payer son loyer. Ensuite, grâce à cet emploi, j'obtenais de nombreuses invitations chaque semaine pour des vernissages à Paris. Enfin, troisième raison, et non des moindres, j'y avais trouvé une sorte de planque, car si j'arrivais à créer l'illusion que j'œuvrais d'arrache-pied aux missions que l'on me confiait, la réalité était tout autre. Je m'arrangeais pour boucler le travail exigé en 2-3 heures le matin, afin de pouvoir buller discrètement l'après-midi. Ah, une dernière chose encore m'incitait à me rendre au travail quotidiennement. C'était la société Wesson, nos voisins de bureau. Ces derniers réalisaient des impressions grand format de tirages d'art dans leur atelier dont nous partagions l'espace, rue Lafitte, à Paris. C'était pour moi un émerveillement renouvelé que de voir ces photos souvent plus grandes que nature, dont les artistes en personne venaient vérifier les épreuves. Ils en scrutaient chaque détail avec une concentration infinie. C'est ainsi que je pus croiser le regard ou les sourires de Nan Goldin, Helen von Unvert ou Pierre et Gilles, tout en contemplant leurs œuvres dont les tests de tirage finissaient pour la plupart en lambeaux dans la grande poubelle du studio. Quelquefois, prudemment, en catimini, j'en récupérais des fragments pour faire vivre les murs de ma chambre montmartroise. Un jour, le patron de Wesson reçut en rendez-vous un célèbre et sulfureux photographe. Je ne le connaissais pas de visu, mais un membre de l'équipe voisine pensa que je serais sans doute intéressé de savoir qui était le monsieur chauve, caché derrière de larges lunettes noires. Un chauffeur l'avait déposé devant la porte d'entrée alors que je revenais de ma pause déjeuner. Il m'avait alors dépassé sans un regard. Ce qui m'avait frappé, ce n'était pas seulement l'empressement avec lequel ce personnage était sorti de sa voiture. La vitesse avec laquelle il s'était engouffré dans le long couloir sombre de l'entrée des bureaux. Non, j'avais surtout remarqué la très jolie et jeune personne qui l'accompagnait. Elle ne ressemblait en rien à certaines assistantes de photographes que j'avais pu croiser ici. J'en voyais des dizaines chaque semaine, se pavanant auprès des créatrices et des créateurs des œuvres imprimées, comme si elle-même en était à l'origine. Celle-ci était différente. On eût dit à sa façon de se mouvoir qu'elle semblait s'excuser en permanence d'être à la place où elle se tenait. À peine croisiez-vous son regard que ses yeux fixaient le sol. Alors, elle redressait le menton et entr'ouvrait les lèvres. C'était très sensuel et mystérieux. J'avais eu tôt fait de remarquer que, dès que quelqu'un lui adressait la parole, ses joues s'empourpraient et qu'elle frottait alors son pouce contre l'index et le majeur. Ce geste semblait vouloir masquer sa gêne. On ne pouvait ignorer cette fille, car quelque chose émanait d'elle, l'enveloppait dans un halo de candeur. Elle me plut immédiatement. La voyant devant moi, je lui adressai un signe amical qu'elle ne vit point. Elle attendait, paisible et discrète, assise sur une chaise que le rendez-vous de son boss s'achève. Ils partirent ensuite, rapidement, lui feignant d'ignorer ceux qui le saluaient, elle s'excusant presque de la goujaterie de celui qu'elle accompagnait. Il revint le jour suivant, ainsi que le jour d'après. Ce fut là que je parvins enfin à établir le contact avec la timide assistante. Contre toute attente, c'est grâce à un morceau de musique qu'elle dirigea ses yeux vers moi. J'étais à mon bureau, inoccupé, oisif ou presque. J'écoutais un vieux titre de Led Zeppelin. Un sourire apparut sur son visage. Elle avait l'air étonnée d'entendre les cris de Robert Plant s'élever en plein milieu de l'après-midi, tandis que son photographe de patron s'évertuait à noircir au marqueur une photo immense afin d'en souligner les défauts. J'adressai la parole à la jeune fille, qui ne paraissait pas beaucoup plus jeune que moi. Deux paires d'années tout au plus nous séparaient. Elle m'expliqua qu'elle effectuait un stage de fin d'études auprès de cet artiste. En l'aidant à rassembler ses archives, il pourrait les céder par la suite à la Bibliothèque nationale. Ayant connaissance des penchants condamnables de celui qu'elle secondait dans ses activités, je ne pus m'empêcher de lui demander « Vous êtes ensemble ?» dissimulant à peine un sourire entendu. Le photographe susnommé appartenait à la catégorie des vieux mâles qui luttent pied à pied contre le temps. Pour conjurer l'inéluctable anéantissement du charme de leur jeunesse, ils recherchent la compagnie de jeunes proies. Aussi, je m'étais fait toute une idée sur cette intrigante demoiselle. Pour toute réponse, elle me jeta un œil noir qui tua dans l'œuf toute hypothèse scabreuse. « Non, » récusa-t-elle avant de rajouter « Absolument pas. » Elle en profita cependant pour me dévoiler son prénom, Amélie, qui résonna en moi en une courte mélodie de trois notes. Je m'entichais immédiatement de cette frêle et abstruse personne. Par chance, désormais, j'allais la voir souvent, car il était prévu qu'elle vienne au bureau à raison de 2 à 3 fois par semaine, pendant 2 mois, afin de procéder au suivi d'impression de plusieurs lithographies de son maître de stage, et ce, avec ou sans lui. Vérifier chaque épreuve lui prenait un temps infini. Profil sage, regard studieux, elle était si chastement belle quand elle se concentrait sur une œuvre. Comme souvent, elle n'avait pas fini son travail au moment où les employés du studio Wesson partaient. Je lui proposais donc de rester avec elle et de ne fermer les locaux que plus tard, une fois qu'elle aurait terminé. C'est ainsi qu'un soir, à près de 21h, alors qu'elle avait achevé la vérification des 150 impressions d'une série de photos et semblait avoir besoin de se changer les idées, je sortis une bouteille de vin blanc alsacien afin de la partager avec elle. Nous bûmes peu, pas même un verre, avant que nos lèvres ne s'apprivoisent. Les guitares de Since I've Been Loving You de Led Zeppelin avaient à peine fait vibrer nos tympans qu'Amélie avait totalement changé d'attitude. Elle s'était avidement jetée sur ma bouche et ne l'avait plus lâchée durant les 7 minutes qu'avait duré le morceau. Puis, Amélie s'approcha de mon oreille et y laissa choir dans un doux chuchotement quelques mots. Quand j'étais plus jeune, ma mère m'a dit que je vivrais un truc sur cette chanson. Je ne sus pas trop quoi faire de cette confidence. Aussi, je me contentais de profiter de l'ambiance et j'enlaçai ma douce amante sur le canapé en cuir du graphiste dont nous avions squatté le bureau. Nous y fîmes l'amour alors que le ciel s'assombrissait par-delà la verrière qui nous protégeait. C'était bon de jouir entouré d'œuvres dont certaines très érotiques. Une fois la nuit tout à fait tombée, nous nous promîmes de nous revoir au plus vite. Le pari était facilement gagné puisque ma nouvelle amie devait encore superviser une grande quantité de travail au studio Wesson. Nous retrouver en revanche, relevés d'un autre challenge. Impossible d'aller chez elle. Amélie logeait chez les sœurs Ursulines de l'Union romaine. Aucun homme ne pouvait rentrer dans ce foyer de jeunes étudiantes. Cependant, j'eus la chance que ma voisine de bureau éprouvait la même motivation que moi quant à l'idée de faire des heures supplémentaires fondamentalement dissipées, avec une grande conscience professionnelle. Nous mîmes bientôt en place un petit manège discret qui nous permettait de goûter l'un de l'autre de façon libre et épanouissante. J'avais donc demandé à changer mes horaires. Ainsi, si je travaillais toujours le matin, on m'avait accordé le droit de ne reprendre mon poste qu'à 17 heures. Aussi, je croisais pendant presque 2 heures le reste de l'équipe et je profitais ensuite du charme des locaux, porte centrale verrouillée, en toute quiétude. Amélie, de son côté, arrivait tard dans l'après-midi et prenait tout son temps sur les épreuves à valider. Vers 20h30, généralement, elle me rejoignait à mon bureau et nous commencions à explorer tous les espaces qui nous étaient offerts. J'étais ravi de découvrir chez cette jeune femme un appétit sexuel indécelable au premier abord. C'était elle qui venait toujours me chercher. J'en étais presque intimidé. Si lors de nos premiers rendez-vous, nous mettions un certain temps à nous coller l'un à l'autre et à nous dévêtir, assez rapidement, Amélie avait adopté une attitude plus autoritaire me concernant. Elle m'appelait, me désignait un lieu, un recoin, une porte, un couloir, un bureau, un fauteuil. Et elle ne s'offrait pas à moi, non, elle s'offrait à nous. C'était comme si elle devenait une autre, qu'elle se révélait à elle-même, qu'elle se transformait en celle du bureau, c'est-à-dire en un personnage qu'elle s'inventait de toutes pièces afin de se donner la force et le courage d'oser. Bien évidemment, j'adorais cela. C'était excitant de faire l'amour dans les toilettes, sur le canapé de l'accueil, sur le bureau du stagiaire, sur celui du responsable commercial que je n'aimais pas, et sur celui de mon patron surtout. Elle, à genoux sur le fauteuil du PDG, se cramponnait au large dossier de cuir qu'elle mordait même à certains moments. Et moi, derrière ses fesses si douces, je faisais reculer à chaque coup de rein que je donnais le siège à roulettes qui n'en finissait plus de couiner. Dans cette situation, seul mon sexe rentrait en contact avec elle. Je me contentais de tirer sur les accoudoirs entre lesquels elle était installée, afin de faire aller et venir vers moi la cavalière et sa monture. Ce qui lui plaisait, m'avait-elle confié brièvement, c'était de faire l'amour dans des lieux presque publics. Le bureau était donc parfaitement indiqué, idéal pour la réalisation de ce fantasme. Une de ses positions favorites consistait à être prise une jambe par-dessus la rambarde de la mezzanine qui dominait l'espace de l'accueil, l'autre ancrée solidement dans le sol. Quand elle se penchait vers le vide pour que je la pénètre conformément à son désir, son plaisir semblait s'accentuer et ses cris venaient frapper la verrière un peu plus haut pour résonner dans le silence. J'aimais l'entendre crier. Je ne pourrais compter le nombre de fois où nous avons baisé ensemble là-bas, tant nous le fîmes. Certains soirs, nos orgasmes s'accordaient au moins 3 fois ensemble. Nous étions déchaînés. Moi, ce que j'aimais, c'était quand nous nous retrouvions dans le petit bureau dont la vitrine sans teint donnait directement sur la rue. Nous savions qu'à moins d'allumer la lumière, personne ne pouvait nous voir. Mais il nous fallait entretenir ce frisson qui nous tenait malicieusement. Quelquefois, cela nous donnait envie d'en rajouter, de flirter avec le danger. Alors, à ces moments bien tardifs, nous allumions dans un coin une petite lampe de bureau, par intermittence, juste pour le jeu. C'est ici également que nous jouions à augmenter de façon ostentatoire le volume sonore de nos ébats au moment où des passants marchaient à proximité. Certains s'arrêtaient, interloqués. D'autres, peu nombreux, posaient leurs mains sur la vitre pour juger de l'activité à l'intérieur du local. Notre but n'était pas de nous exhiber, loin s'en faut. Toutefois, ces situations nous procuraient parfois de vrais fous rires qui, même s'ils nous éloignaient de notre occupation première, participait au plaisir que nous avions d'être ensemble. Ainsi, je me laissais souvent aller dans ces moments d'intimité, avant ou après nos jouissances respectives, à de nombreuses confidences sur mon activité professionnelle. Au gré de nos discussions badines et enjouées, Amélie fut vite informée de mes différentes stratégies pour en faire le moins possible au bureau. Elle a pris mes petits arrangements pour toucher des commissions grâce à quelques prestataires sympathiques, et je lui dévoilais même toutes mes astuces pour qu'on me pensât en plein travail chez moi, quand je me trouvais en réalité sur une plage normande. J'allais payer cher mon excès de confiance en l'être désiré, et ce, bien plus rapidement que je ne l'eusse pensé. Le stage d'Amélie auprès du plus malsain des photographes touchait à sa fin. Je commençais déjà à réfléchir à comment et où pourrions-nous nous retrouver nuitamment. Il y avait la possibilité d'aller chez moi, mais elle ne m'avait pas paru particulièrement inspirée par le lieu les 2 fois où elle était venue. Puis, il y eut ce matin où je la vis sortir du bureau de mon boss, celui-là même dans lequel nous avions souvent chahuté charnellement ensemble. Elle était tout sourire, lui aussi. Et, s'adressant à moi, ce dernier m'apprit qu'Amélie avait été chaleureusement recommandée par les dirigeants de l'équipe. Elle allait à présent rejoindre notre équipe, devenant même, à ma grande surprise, ma supérieure hiérarchique. Quelquefois, le vent tourne, sans crier gare. J'eus la faiblesse, l'inconscience, la naïveté, l'outrecuidance de penser que nos jeux nocturnes s'en trouveraient facilités. Ce fut tout le contraire qui advint. Amélie me prit à part pour m'expliquer que son premier véritable emploi était très important à ses yeux et qu'elle allait s'attacher à être consciencieuse et appliquée. Cela voulait dire fin des heures sup sensuelles. Ces premières mesures qu'elle dut prendre à contre-cœur furent de revoir mon emploi du temps pour lui donner un cadre plus conventionnel, et de ne me laisser écouter de la musique? Désormais, Jimmy Page n'allait plus pouvoir m'aider à la conquérir. C'en était de trop. Je démissionnais sur le champ. Par la suite, j'ai connu bien d'autres bureaux, d'autres collègues, d'autres associés, mais si j'ai continué à trouver qu'il était toujours très excitant de lier sexe et travail, je me suis depuis bien gardé de livrer le moindre de mes secrets professionnels à celles avec qui je peux partager ouverture d'esprit et open space. Une chose est sûre, ce qui se passe au bureau reste au bureau. La suite de cet épisode est réservée au VIP Leçon du Désir. Pour vous abonner, c'est très simple. Rendez-vous sur leçondudésir.fr et laissez-vous guider. À tout de suite.